Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Boudja Madaman au micro de Fréquence Droit sur Aligre FM. C'est une émission exceptionnelle que nous vous proposons ce soir. Une émission spéciale consacrée aux élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Ces municipales, tout comme les élections sénatoriales prévues en septembre, n'ont jamais été aussi importantes. Il s'agit du dernier grand rendez-vous des Français avec les urnes avant 2027, une sorte de mi-terme, mais à la française. Des élections qui permettront de prendre le pouls politique du pays et de mesurer l'état de l'opinion en France avant l'élection présidentielle. La mère de toutes les batailles. Le contexte, vous le connaissez, une Assemblée nationale balkanisée, impuissante, une gauche éparpillée, un bloc central et de droite déboussolé et une extrême droite conquérante. Et puis il y a le terrain. Les Français qu'on dit désabusés. C'est vrai. Et pourtant, c'est profondément faux. Car partout, ça bouge, ça débat, ça s'organise, ça résiste, ça invente. Cette réalité, nous allons vous la montrer à travers une série de 3 émissions. 3 émissions pour démontrer que la démocratie ne se résume pas au plateau télé, ni aux sondages, ni aux équilibres d'appareil. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Fréquence Droit. Elle commence maintenant. Pour esquisser un tableau de cette réalité, dans les 55 minutes qui nous sont imparties, nous avons invité 3 actrices, acteurs de terrain, pas des commentateurs de passage, pas des professionnels du discours vide. Ils vont commencer très simplement chacun et chacune, à présenter leur organisation, leur combat, leur ancrage. Bonsoir, Florène Julien. Vous représentez Victoire Populaire. Bonsoir, Jean-Christophe Tagavi. Vous représentez Paris Collectif. Bonsoir, Annie Lamère. Vous représentez
Démocratiser la politique.
Démocratiser la politique. Merci. Vous avez la parole, Florène Julien.
C'est maintenant que je dois faire les 2 phrases pour résumer Victoire Populaire, c'est ça ?
2, 3, 4, comme vous voulez.
Victoire Populaire, en 2 phrases, c'est un mouvement de citoyennes et citoyens qui veulent mettre au pouvoir l'écologie, la justice sociale et le renouveau démocratique et qui ont envie de mettre un tout petit peu la pression aux partis politiques pour qu'ils pensent des stratégies de victoire plutôt que des stratégies d'appareil.
Donc, Annie Lamère. Démocratiser la politique.
Alors, démocratiser la politique est un collectif de militantes, militants, de personnes issues des classes populaires qui, pendant 3 ans, a travaillé autour d'un rapport, un rapport qui est sorti, qui s'appelle « Tous les mêmes » et qui démontre, qui montre que l'élite, qu'une certaine élite, en tout cas les CSP+, ont pris la main sur le paysage politique en France. Et voilà, donc... On va en parler.
Merci. Jean-Christophe, donc pour Paris Collectif.
Alors, 2 phrases un petit peu longues. Paris Collectif, on est un collectif d'habitants, à la fois des citoyens non encartés, des responsables associatifs et syndicaux, des militants et des élus de partis politiques qui, tous, nous sommes retrouvés autour d'un même constat assez simple. Les transformations de la ville, que ce soit en termes de logement, de mobilité ou encore de sécurité, ont un impact direct sur notre vie. Et pourtant, on est nombreux à avoir le sentiment que ces décisions, elles arrivent par le haut sans qu'on soit associé à aucun moment. Et donc, on a décidé, il y a maintenant 2 ans et demi, de créer Paris Collectif un mouvement citoyen pour construire avec toutes celles et ceux qui vivent et qui font vivre Paris un projet de transition écologique, de justice sociale et de démocratie continue pour Paris.
Merci Jean-Christophe. Donc, on va décomposer cette émission en 3 parties. La première partie, c'est crise politique et démocratie. Donc, la première question, que je pose dans ce contexte-là, puisqu'on parle beaucoup de crise démocratique, les sondages évoquent énormément l'abstention, la défiance, la colère. Mais vous, vous êtes sur le terrain. Votre quotidien, ce sont les rencontres, les recherches-actions, l'écoute directe. Florène, comment se manifeste cette crise du point de vue des Victoires Populaires ?
Enfin, nous, on s'est un peu créé parce que y a cette crise, en réalité. Y a plus de 84% des Français qui ne font pas confiance aux partis politiques, selon une étude du CVPOF qui date de 2023. Et les militantes et militants qui ont créé Victoire Populaire, c'est des personnes qui avaient envie de faire de la politique, mais qui ne faisaient pas ou plus confiance aux partis politiques pour porter leur combat. Et donc, c'est tout un tas de personnes qui ont participé à des marches pour le climat, qui ont participé à des marches antiracistes, à des marches féministes, qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes ou à plein d'autres mouvements sociaux de ce type, et qui, en période électorale, ne savaient pas où aller, soit parce que y avait plusieurs partis politiques qui leur plaisaient, soit aucun. Et c'est comme si le combat politique s'arrêtait aux échéances électorales parce que d'un coup, on ne trouvait plus l'endroit où passer à l'action. Et donc forcément, ça crée une défiance importante parce que c'est très frustrant d'avoir conscience que ce pourquoi on s'engage, c'est politique, mais qu'on ne sait pas comment le traduire dans les urnes. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on s'est créé. L'idée, ce n'est pas de faire contre les partis politiques, mais d'avoir un espace d'engagement qui nous est propre, dans lequel on a des méthodes de porte-à-porte, de discussion avec les autres qui nous semblent être plus adaptées à ce qu'on cherche. Et en période électorale, l'idée, c'est de se dire « Ok, quelle est la meilleure stratégie pour faire gagner nos idées ?» Donc nous, on ne présente pas de candidats, parce qu'on pense qu'à partir du moment où on présente des candidats, on rentre dans des jeux qui sont très compliqués, que ce soit pour des raisons d'ego, de représentativité ou de plein d'autres choses. Nous, on n'est pas là pour présenter des candidats. On est là pour soutenir les meilleures stratégies qui permettent d'arriver à la victoire.
Merci. Annie, vous travaillez sur les questions de représentativité. On constate que ce problème de représentativité, que ce soit de diversité, que ce soit d'origine, de genre, de classe, se pose. En quoi l'évolution du personnel politique nourrit-elle cette défiance ?
Eh bien, les personnes ne sont pas représentées, en fait. On a, pendant ces trois années, auditionné des personnes, on a auditionné des chercheurs, des élus, etc. Et comme il était rappelé tout à l'heure, les gens ne votent de moins en moins. Et ils votent de moins en moins parce qu'ils ne se sentent pas représentés. Et nous, ce qu'on a pu voir suite aux études, c'est que 7 personnes sur... Enfin, au Parlement, 7 personnes sur 10, 7 élus sur 10 représentent les CSP+. Ce qui veut dire que les ouvriers, les ouvrières, les employés de bureau, etc., ne sont pas représentés. Donc on a une population qui ne se sent absolument pas représentée par les élus. Et on nous rétorque souvent, on nous dit « oui, mais ils ne font pas de politique », ce qui est complètement faux. Quand on voit les personnes dans les quartiers populaires, quand on voit les associations, par qui elles sont gérées, par qui elles sont, enfin, le dynamisme, il est lié à la prise en charge des habitantes et des habitants, des associations, etc. Et on voit, il y a pas mal de mouvements qui se sont faits. Enfin, moi, je suis issue de 1983 avec la marche contre le racisme. Personne n'est allé voir les élus en leur disant « on a besoin de vous pour organiser la marche ». Et encore maintenant. Donc non, les personnes qui viennent des quartiers pop, issues des quartiers populaires, des CSP moins, font de la politique. Et ils font de la politique au sens propre du terme et au sens noble du terme. Et donc, les élus, et moi je l'ai vécu, je l'ai vécu parce que j'ai eu un poste de directrice de cabinet d'un maire parisien, et j'ai vu ce que ça donnait d'avoir des élus qui sont déconnectés de la réalité. Parce que quand on a au bout du couloir une maman seule avec un enfant qui est à la rue, eh bien on ne l'accueille pas de la même façon en fonction de d'où on vient et du parcours qu'on a eu. Et ça, ça se voit, c'est flagrant. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une désaffection et que les gens votent de moins en moins.
Justement, Jean-Christophe, que disent les Parisiens et les Parisiennes de leur rapport à la politique aujourd'hui ? Parce que Paris Collectif, vous avez justement, depuis 2 ans, été vraiment au contact justement des personnes, parfois même les plus éloignées de l'acte de voter, etc.
Alors, je reviendrai sur la démarche un peu plus tard pour expliquer effectivement comment on en arrive à ces conclusions sur la question de la démocratie. Mais les 3000 personnes qu'on a associées à la démarche nous ont dit des choses effectivement très claires sur leur rapport à la politique et les dysfonctionnements démocratiques qu'elles vivent. La première chose, c'est que la démocratie n'est pas leur première préoccupation quotidienne. Finalement, elles n'arrivent qu'en septième position, derrière le logement, le lien social, les mobilités, les luttes contre les exclusions. Mais pourtant, c'est le sujet qui cristallise le plus fort désir de changement chez les Parisiennes et chez les Parisiens. Autrement dit, la démocratie, ce n'est pas une question abstraite pour les Parisiens et les Parisiennes, c'est une expérience vécue, et c'est une expérience qui souvent est mal vécue. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, les Parisiens et les Parisiennes nous ont parlé d'une crise de confiance profonde à l'égard des institutions et des responsables politiques, pour un peu les mêmes raisons que tu décrivais, Annie. Beaucoup ont le sentiment de ne pas être écoutés, de ne pas être considérés, d'être invisibles, alors sauf à l'approche des élections. Et ils parlent d'un lien qui est distendu avec les élus, qui est parfois même conflictuel. Et cette distance, dans certains quartiers populaires, cette distance, elle se transforme même en résignation, c'est-à-dire que la politique est perçue comme un monde à part entière, en dehors des quartiers, qui promet beaucoup de choses, mais qui finalement change peu de choses concrètement. Ensuite, la deuxième chose que les Parisiennes et les Parisiens ont pointé sur cette question de la démocratie, c'est les limites de la participation citoyenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Ils nous parlent de dispositifs participatifs qui sont formels, qui sont peu accessibles, qui sont une fois de plus socialement très homogènes. Ce sont toujours les mêmes profils qui participent. Beaucoup d'habitants expliquent qu'ils n'y vont pas, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, parce que les sujets à l'ordre du jour ne sont pas en fait ceux qui les préoccupent, ou tout simplement parce qu'ils ont le sentiment que tout est déjà décidé. Et lorsqu'ils participent, ils ont le sentiment que leur parole ne va pas vraiment peser puisque les décisions sont déjà prises et ailleurs. Mais il ne faut pas se tromper. Comme je disais, ce diagnostic critique, ce n'est pas un rejet de la démocratie. Au contraire, les Parisiennes et les Parisiens qu'on a nous rencontrés ont exprimé une attente très forte. C'est celle d'une démocratie qui soit plus proche, qui soit plus inclusive, qui soit plus transparente et qui soit plus effective. Il y en a beaucoup qui croient qu'une autre manière de faire de la politique est possible à condition de reconnaître la parole des habitants, à condition de diversifier les profils qui y participent et de leur donner un véritable pouvoir de co-décision. Et juste pour terminer, ce sentiment que les Parisiennes et les Parisiens ont partagé, il est largement effectivement objectivé par les enquêtes académiques. Tu citais tout à l'heure, Florine, le rapport du CEIPOF. Moi, j'ai pris deux chiffres qui mettent en exergue un peu ce que les Parisiennes et les Parisiens nous ont raconté. Il y a plus de 8 Français sur 10 qui ont le sentiment que les responsables politiques ne se préoccupent pas de ce que pensent les gens comme eux, 83%. Et il y a 7 Français sur 10 qui estiment que la démocratie fonctionnerait mieux si les citoyens étaient associés directement aux grandes décisions politiques.
Fréquence droit sur Aligre FM. Nous marquons une pause musicale.
Ma France à moi, elle parle fort. Elle vit à bout de rêve, elle vit en groupe, parle de bled et déteste les règles. Elle sèche les cours le plus souvent pour ne rien foutre. Elle joue au foot sous le soleil, souvent du coca dans la gourde. C'est le hip-hop qui la fait danser sur les pistes. Parfois elle kiffe un peu de rock, ouais si la mélodie est triste. Elle fume des clopes et un peu de shit, mais jamais de drogue dure. Héroïne, cocaïne et crack égale ordure. Souvent en guerre contre les administrations, leurs BEP mécaniques ne permettront pas d'être patron. Alors elle se démène et vend de la merde à des bourges, mais la merde ça amène à la mère un peu de bouffe, ouais. Parce que la famille c'est l'amour et que l'amour se fait rare. Elle se bat tant bien que mal pour les mettre à l'écart. Elle a des valeurs, des principes et des codes. Elle se couche à l'heure du coq car elle passe toutes ses nuits au phone. Elle paraît feignante mais dans le fond elle perd pas de temps. Certains la craignent car les médias s'acharnent à faire d'elle une cancre. Et si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle s'intériorise et s'interdit de saigner. Non, c'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. Ma France à moi, elle parle en SMS, travaille par MSN, se réconcilie en mail et se rencontre en MMS, elle se déplace en skate, en scoot ou en bolide. Basile Boli est un mythe et Zinedine son synonyme, elle. Il faut pas croire qu'on la déteste, mais elle nous ment, car nos parents travaillent depuis 20 ans pour le même montant. Elle nous a donné des ailes, mais le ciel est VIP, peu importe ce qu'ils disent, elle sait gérer une entreprise, elle. Vie à l'heure américaine, KFC, MTV Base, Footlocker, McDo et 50 Cent, elle. C'est les petits mecs qui jouent au basket à pas d'heure, qui rêvent d'être Tony Parker sur le parquet des Spurs, elle. C'est des petites femmes qui se débrouillent entre l'amour, les cours et les embrouilles, qui écoutent du rail, R&B et du zouk. Ma France à moi, elle se mélange. Ouais, c'est un arc-en-ciel, elle te dérange, je le sais, car elle ne te veut pas pour modèle, non.
C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre.
Ma France à moi, elle a des halls et des chambres où elle s'enferme. Elle est drôle et Jamel Debbouze pourrait être son frère. Elle repeint les murs et les trains parce qu'ils sont ternes. Elle se plaît à foutre la merde car on la pousse à ne rien faire. Elle a besoin de sport et de danse pour évacuer. Elle va au bout de ses folies au risque de se tuer. Mais ma France à moi, elle vit, au moins elle ouvre, au moins elle rit et refuse de se soumettre à cette France qui voudrait qu'on bouge. Ma France à moi, c'est pas la leur, celle qui va d'extrême, celle qui bannit les jeunes anti-rap sur la FM, celle qui se croit au Texas, celle qui a peur de nos bandes, celle qui vénère Sarko, intolérante et gênante, celle qui regarde du l'UNESCO et regrette le temps des choristes qui laisse crever les pauvres et met ses propres parents à l'hospice. Non, ma France à moi, c'est pas la leur qui fête le Beaujolais, qui prétend s'être fait baisser par l'arrivée des immigrés, celle qui pue le racisme mais qui fait semblant d'être ouverte, cette France hypocrite qui est peut-être sous ma fenêtre, celle qui pense que la police a toujours bien fait son travail, celle qui se gratte les couilles à table en regardant Laurent Jean. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, alors peut-être qu'on dérange, mais nos valeurs vaincront. Et si on est des citoyens, alors aux armes la jeunesse, ma France à moi leur tiendra tête jusqu'à ce qu'ils nous respectent.
C'est Fréquence Droit, vous êtes sur Aligre FM, c'est Fréquence Droit, une émission exceptionnelle consacrée aux réponses citoyennes face à la crise démocratique. Ceci dans les perspectives des municipales du 15 au 22 mars. Et la question qu'on s'est posée, c'est que se passe-t-il sur le terrain ? Jean-Christophe, votre démarche repose sur l'écoute citoyenne. Concrètement, comment ça fonctionne ?
Alors, comme je disais, à Paris Collectif, on a fait un choix simple dès le début de la démarche, qui a été de partir de la parole des habitants pour, à partir de celle-ci et avec les habitants, construire un projet social, écologique et démocratique pour Paris. Et pour ça, on a mis en œuvre une démarche en trois étapes: diagnostic, proposition et portage. Alors, concrètement, pour construire un diagnostic de Paris à partir de la parole des habitants, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans les quartiers populaires à la rencontre de celles et ceux qui sont malheureusement trop souvent invisibles et inaudibles dans le débat public. Et à travers des méthodes d'écoute non directives, on a recueilli leur regard sur la ville, leurs besoins, leurs colères, leurs attentes, et c'est comme ça que pendant un an et demi, on a rencontré, échangé avec plus de 1500 habitants, à la fois avec des entretiens individuels et des rencontres collectives, qui se tenaient dans leur lieu de vie, au pied des immeubles, dans les squares, dans les centres sociaux, sur les places. Et donc au terme de ce diagnostic avec plus de 1500 habitants, il y a 15 priorités pour Paris qui ont émergé, à commencer par le logement, les mobilités, le lien social, etc. Une fois qu'on a eu ces 15 priorités, on a voulu du coup rentrer dans la phase 2, celle de la construction des propositions, des solutions, toujours en associant le plus grand nombre. Et donc pour ça, de janvier à juin 2015, pendant 6 mois, on a organisé des ateliers citoyens de proposition qui réunissaient non seulement les habitants, mais aussi des organisations de la société civile de gauche et l'ensemble des forces politiques de gauche de place publique à la France insoumise. C'est comme ça que pendant 6 mois, on a eu 500 participants qui ont fait émerger 500 premières idées. Et plutôt que de retravailler ces idées dans notre coin entre experts, on a préféré retourner dans les quartiers à la rencontre des habitants pour mettre en débat avec eux ces idées, ces 500 premières idées, qu'est-ce qu'ils aimaient moins, qu'est-ce qui devait être modifié, qu'est-ce qui devait être supprimé, etc. Et c'est comme ça qu'on est passé de 500 idées à un peu plus de 200 propositions. Donc là, on est arrivé comme ça à l'été 2025, avec la troisième et dernière question qui se posait à nous, qui était celle du portage. C'est-à-dire comment on fait en sorte que cette parole des habitants devienne réellement la boussole de la prochaine mandature, qu'elle se transforme en politique publique. Et puis, au-delà des propositions elles-mêmes, comment on fait en sorte que la méthode, aller vers l'écoute, la co-construction, deviennent entre guillemets la méthode pour gouverner la ville demain avec les habitants. Et donc pour répondre à ce défi, à l'été 2025, il y a quelques mois, on a lancé une plateforme programmatique avec des organisations citoyennes, associatives et partisanes de gauche, notamment Victoire Populaire, Utopia, l'Après, les écologistes, les socialistes, et à nouveau, toutes les forces politiques de gauche, de place publique à la France Insoumise, ont été invitées à y participer, parce que l'objectif c'était clair, c'était de partir des propositions citoyennes, de les mettre en dialogue avec les projets des organisations politiques et de construire ensemble un projet commun à Paris qui s'inscrive non pas dans des accords d'appareil ficelés dans des studios, mais qui soit un projet commun construit à partir de la parole des habitants. Et donc c'est comme ça qu'on est passé à 260 propositions qu'on a restituées dans un moment politique un peu inédit le 25 novembre dernier, au cours duquel l'ensemble des partis politiques de gauche, une fois de plus de Place Publique à la France Insoumise, étaient présents pour s'engager publiquement à les reprendre et on espère du coup à les mettre en œuvre durant la prochaine mandature.
Justement, Florène, est-ce qu'il y a des exemples concrets où cette participation citoyenne s'est traduite en décision politique, justement ?
Alors, je vais donner des exemples, mais ils ne sont pas toujours victorieux à la fin, donc il ne faudra pas que ça démoralise complètement les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Déjà, je trouve ça important de dire que les personnes qui sont autour de la table aujourd'hui, on est quand même très complémentaires. Et je pense que c'est ça qui fait notre force aussi, et c'est important qu'on puisse prendre la parole ensemble. On a démocratisé la politique, qui travaille sur la représentativité. Par A plus B, ça me semble logique. Quand tu n'as pas des personnes qui te ressemblent, tu n'as pas envie de te battre pour qu'elles soient élues. Parce que tu as l'impression qu'elles ne vont pas forcément comprendre demain comment mettre en œuvre des choses qui représentent tes intérêts. Et si tu n'as pas un programme dans lequel tu as l'impression d'avoir été un minimum inclus, forcément, ça ne te parle pas trop derrière. Nous, notre travail, c'est de donner envie à des personnes qui sont globalement un peu déçues de la politique, de faire de la politique et de la faire autrement. Donc c'est pour ça qu'on imagine des outils pour faire en sorte que les gens, au lieu d'aller coller des tracts ou distribuer des tracts ou coller des affiches sans trop savoir pour qui et pourquoi ils le font, après avoir passé 2 heures avec nous, ils se disent « bon, en vrai, c'était cool, j'ai envie d'en parler à mes amis pour qu'ils viennent aussi militer au sein de Victoire Populaire ». L'aventure pour nous, elle a commencé en 2022 et tu parlais tout à l'heure de la présidentielle comme de la mère des batailles. On s'est peut-être attaqué un petit peu trop vite à la plus grande des batailles en voulant lancer une grande primaire citoyenne pour désigner une candidature qui permettrait de mettre tout le monde d'accord, d'avoir une seule candidature à gauche et de gagner la présidentielle. Bon, force est de constater qu'on n'a pas réussi.
Avez réussi à mobiliser.
C'est ce que j'allais dire. Voilà, on n'a pas gagné la présidentielle, mais je ne suis pas certaine que ce soit complètement de notre faute. Je pense que les partis n'ont pas fait trop d'efforts non plus pour qu'on arrive à penser une stratégie de victoire ensemble. Par contre, ce qu'on a réussi, c'est à rassembler un 500 000 de citoyennes et de citoyens qui, toutes et tous, partageaient un peu notre ras-le-bol de dire « en fait, ouais, moi aussi, j'ai envie de faire de la politique. » Moi, c'est un truc qui m'a marqué dans le rapport de démocratiser la politique. C'est qu'en fait, il y a énormément de personnes issues de classes populaires qui veulent entrer en politique. Le problème, c'est qu'on leur ouvre pas la porte. Mais c'est pas qu'il y a personne derrière la porte. Et nous, c'est le même constat qu'on a fait. Il y a plein de gens qui ont envie de faire de la politique, il y a plein de gens qui ont envie de militer. Les méthodes qui sont proposées, aujourd'hui, elles sont pas suffisamment satisfaisantes pour que les gens, ils aillent pleinement s'engager dans les partis politiques. Donc, notre première tentative, ça a été 2022. Mais pour parler de quelque chose qui a vraiment fonctionné, où on a vu l'impact direct de quand on se mobilisait, ce que ça pouvait faire, c'est au moment du nouveau Front Populaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, résultat du premier tour, on est un peu toutes et tous en flip. C'était il y a un peu plus d'un an maintenant, parce que globalement, le Rassemblement National est en tête et Jordan Bardella pourrait arriver à Matignon. Et ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on trouve une solution pour qu'il y ait un maximum de candidats qui se désistent au profit du nouveau Front Populaire. Et donc là, on a mené une campagne qui s'appelait le barrage républicain, qui a fonctionné jusqu'à ce que Macron décide d'oublier le concept de démocratie juste après les résultats et l'arrivée en tête du nouveau Front Populaire. Mais l'idée, c'était de dire, nous, citoyennes et citoyens, mettons la pression aux politiques pour leur dire qu'ils doivent se désister face au Rassemblement National pour que Jordan Bardella n'arrive pas à Matignon. Et en 48 heures, il y a des milliers de personnes qui ont interpellé les candidats de leur circonscription et il y a plus de, je crois, 150 ou 200 candidatures qui se sont désistées. Pourquoi j'en parle ? Même si derrière, ça n'a pas marché parce que le nouveau Front Populaire n'a pas été nommé à Matignon, mais ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute à Macron. Là, pour le coup, hors de question de prendre cette responsabilité. C'est qu'on va refaire pareil au moment des municipales. On va se retrouver le soir du premier tour avec plusieurs listes qui pourront arriver au second tour. Et si on ne veut pas livrer un certain nombre de villes au Rassemblement National, et derrière que ça ait un impact sur le Sénat et on connaît la suite de l'histoire, il va falloir que nous, collectivement, on se mobilise pour mettre la pression aux partis, pour dire déjà, vos jeux d'appareil, en temps normal, ça nous énerve. Ça génère énormément de colère et de défiance. Mais alors, quand il s'agit d'avoir des jeux d'appareil au moment d'enjeux électoraux aussi forts, ça va vraiment nous mettre en colère. Et je pense que cette pression peut être déterminante pour qu'on gagne un maximum de villes pour les municipales et que derrière, on ait au moins, quoi qu'il se passe en 2027, cette garantie d'avoir un maximum de villes qui restent à gauche, quelle que soit la gauche, et on pourra avoir plein de débats à ce sujet ultérieurement.
Mais justement, beaucoup disent que ce front républicain est mort. Beaucoup essaye en tout cas de faire croire qu'aujourd'hui, le front qui pourrait se situer, c'est un front plutôt d'ailleurs anti-LFI qu'anti-RN, ce qui serait un absolument inconcevable, enfin incroyable. Et donc, est-ce que vous pensez que avec ce matraquage permanent qui essaye de nous faire rentrer ça dans la tête, est-ce que vous pensez que ce combat doit être mené, c'est une évidence, mais peut être victorieux à nouveau?
Bah, ce qui est certain, c'est que le Front républicain qu'on a vu au moment du nouveau Front populaire, il est mort. Enfin, évidemment, les macronistes ont fait un certain nombre d'alliances avec le Rassemblement national alors qu'ils avaient décidé de s'allier avec le nouveau Front populaire. Là, force est de constater qu'on ne peut plus jouer dans la même cour ensemble. Par contre, je pense que ce qu'il est aussi important qu'on ait toutes et tous en tête, c'est que le soir des résultats du premier tour des municipales, si on a deux listes à gauche qui passent la barrière du premier tour et qui peuvent se présenter au second tour, et que, en l'absence d'union de ces deux listes, le Rassemblement national ou la droite alliée avec le Rassemblement national gagne une ville, là, l'échec, il sera du côté de la gauche et c'est à gauche qu'il faudra le regarder. Donc, que ce soit la France insoumise ou le Parti socialiste qui arrive en tête, nous, on appellera à faire une alliance stratégique pour gagner et on sera tout à fait capable de soutenir des listes de la France insoumise, des listes du Parti communiste, des listes citoyennes, des listes Europe Écologie Les Verts ou je ne sais pas qui j'ai oublié pour nommer ces personnes. J'ai oublié les socialistes.
Mais c'était un hasard.
Mais évidemment, qu'on les soutiendra s'il faut. Mais l'important, c'est que la gauche soit capable de s'unir pour les municipales pour garantir la défaite de la droite, en fait. C'est juste ça.
Annie, ouais. Vous parlez de représentativité, enfin d'améliorer la représentativité, d'améliorer donc les pratiques de gouvernance. Et donc, pour ça, effectivement, introduire de la diversité. Mais vous évoquiez tout à l'heure, d'ailleurs, la marche pour l'égalité de 1983, qui me rappelle aussi de grands souvenirs. Mais, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'élus qui sont issus de la diversité, dans tous les partis d'ailleurs, hein, y compris à droite. Hein, alors à l'extrême droite, c'est un peu particulier, puisque ils servaient de pot de fleurs, mais je dirais que pour...
ils peuvent servir de pot de fleurs ailleurs aussi.
Ils peuvent servir de pot de fleurs ailleurs. Donc en quoi, justement, cette amélioration exigée en termes de représentativité de gouvernance peut changer les choses et comment?
Alors, les partis politiques ont vraiment une grande responsabilité parce que ce sont eux qui fabriquent leur liste pour les municipales. Et donc, mais comme ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des personnes issues de quartiers pop sur les listes. Mais où est-ce qu'on les met? Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'on va leur donner comme mandat ensuite? Quelle délégation ils vont avoir? Alors nous, ce qu'on voit, c'est que sur une liste de 100 personnes, on prend toutes les 10 élus, plus on descend dans la liste, plus on a des personnes issues des quartiers pop. Donc ils ne sont pas en tête de liste, c'est rare, c'est très rare. Et ensuite, on parlait de second tour. Quand il y a un second tour et qu'il y a négociation entre les partis politiques, eh ben, ils descendent encore plus. Après, à la fin, quand ils arrivent et qu'on leur donne des délégations, qu'est-ce qu'on leur donne comme délégation? En général, c'est les sports, c'est comme les femmes. Nous, on nous propose de fait la petite enfance, le scolaire, et c'est pareil. Là, c'est la même chose, donc ce sont rarement des délégations qui sont délégations finances, enfin, structurantes en tout cas pour la ville. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que déjà, un, les partis politiques, quand ils organisent leur liste, fassent attention à la parité sociale. Et Démocratie, c'est la politique, a mis en place un outil qui permet aux personnes qui font leur liste de voir un petit peu comment elle est structurée. Ensuite, on a aussi une cartographie qui permet de voir les conseils municipaux actuels, comment ils sont constitués. Donc moi, je suis allée voir, c'est simple, il faut aller voir sur certaines villes où on a, 60% de personnes issues quartier pop et classe moyenne, et on a 70% d'élus qui sont CSP+. Et donc, voilà, donc ça, c'est les partis politiques portent une grande responsabilité. Parce qu'il est évident que moi, le nombre de fois où je suis allée voir des élus au logement, là où j'habitais, en disant, écoutez, là, il y a un problème dans ces logements, un problème d'humidité. et la réponse. Mais le nombre de fois où la réponse a été de me dire « Ah oui, mais ces gens-là, ils aèrent pas, parce que les pauvres, ça aère pas. » Donc comment changer ça? Comment faire que l'élu qu'on va voir sait ce que c'est? C'est ce que c'est que la précarité, c'est ce que c'est. On a besoin d'alliés, ça c'est clair. Il faut des alliés. Mais la parole, la vraie parole et la mise en place d'une politique par des personnes concernées, ça me paraît indispensable. Et il faut que ces personnes concernées ne tombent pas dans le piège aussi. Parce que quand les partis politiques organisent leur liste, c'est aussi du copinage. Et donc on peut aussi, parce qu'on parle de pot de fleurs, mais il y en a partout, dans toutes les listes. Alors, plus à l'extrême droite, parce que c'est vrai que ça fait bien d'avoir quelqu'un issu de l'immigration ou quelqu'un un peu foncé de peau d'élu. Il y en a de moins en moins. Hein. Moi, je vois, à la région Île-de-France, on en avait sous le dernier mandat. Là, sur ce mandat présent, non, on n'a personne issu de l'immigration. En tout cas, pas maghrébine ou issue ou africaine. Mais il faut aussi que les personnes auxquelles on donne un mandat, soient droites dans leurs bottes. Elles ne sont pas là pour se faire acheter. Et c'est le copinage, pour moi, c'est quelque chose qui ne doit plus fonctionner dans les partis politiques.
Aligre FM 93.1.
Et comment éviter l'accusation de communautarisme, justement, qui est brandie systématiquement dès qu'on essaye de, effectivement, mettre en position éligible et avec des responsabilités réelles, enfin structurantes, pour reprendre ton expression, Annie, des gens issus de l'immigration, tout simplement.
Ben, écoute, moi, je pense que déjà, nous, issus de l'immigration, on doit être à la hauteur, c'est-à-dire faire attention à ce qu'on fait, comme les autres. Voilà, parce que très vite, c'est vrai qu'on nous accuse de communautarisme, c'est clair. Et ensuite, mais écoute, c'est simple. Comme je disais tout à l'heure, on a cette cartographie. Utiliser cette cartographie-là et dire, mais c'est pas normal que dans une ville où il y a 70% de la population qui habite dans les quartiers pop ou qui est issue des quartiers pop ne soit pas représentée. En fait, c'est pas du communautarisme. En fait, là, on fait une sélection sociale, c'est du mépris social. Et donc voilà, moi c'est comme ça que je l'explique. Je disais, mais attendez, regardez la carte. Regardez à Fontenay-sous-Bois combien on a de personnes dans les quartiers pop et combien on en a qui sont élus.
Alors, juste une petite.
Il est plutôt dans les classes supérieures, là,
absolument,
non?
Absolument, c'est ça. Pour moi, c'est quand on nous parle de ségrégation, c'est une ségrégation sociale.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on a une élite qui vit entre elles, qui est bien, ils aiment bien être entre eux, et puis les autres, ben, on va leur dire comment on fait et ce qu'il faut faire.
Ouais, juste une petite correction par rapport à ce que tu disais, à savoir quand on est effectivement racisé, pour utiliser un terme communément admis, en tout cas, de notre côté, et j'espère plus largement, tu disais, il faut qu'on soit aussi bon que les autres, comme les autres, il faut qu'on soit, etc. Moi, je me souviens de, sans le nommer, d'un journaliste d'origine maghrébine qui, à un moment donné, a présenté un journal et qui était un ami, qui a présenté un journal donc de la mi-journée, et qui disait, pour être justement considéré comme les autres, il a fallu que je sois deux fois meilleur qu'eux.
Eh oui, donc, mais ça, c'est pas normal, tu vois, c'est pas normal. Mais on nous accuse tout de suite, tu sais, moi, il n'y a pas longtemps, dans mon propre parti politique, j'avais été filmée pendant un rassemblement suite à l'assassinat qu'il y avait eu dans une mosquée dans le Gard, dans mon coin en plus, pas loin de chez ma maman. Et j'étais à côté de quelqu'un qui a fait une déclaration et qui a énoncé la prière des morts. Moi, je ne parle pas l'arabe, donc je ne savais pas. Et de toute façon, cette prière, je suis tout de suite allée me renseigner. C'est la même dans toutes les religions, il y a une prière des morts. Ça a été monté en épingle sur les réseaux sociaux. Et donc, quelqu'un dans mon propre parti m'a dit « Mais tu te rends compte, il faut que tu fasses quelque chose, tu étais avec quelqu'un. » J'étais devenue islamiste. Parce qu'on ne l'aurait pas dit à quelqu'un qui n'est pas d'origine maghrébine, mais moi, on me l'a dit. Je tombais des nues, qu'on puisse me dire ça, alors qu'on me connaît, qu'on sait très bien que moi, je suis quelqu'un de laïque, même si je respecte absolument toute la religion. Mais voilà, on nous projette aussi ça, automatiquement, et on le voit sur Gaza, etc. Si on est maghrébin, eh bien, on devient des islamistes. Et donc, ça aussi, ça complique les choses dans nos rapports avec les autres, parce qu'on est taxé tout de suite.
Et en termes de gouvernance, le problème se pose aussi au niveau de la diversité. Est-ce que la gouvernance, à partir du moment où les élus sont des femmes, c'est au niveau du genre, et là la question je la pose à Florène, mais Jean-Christophe tu peux répondre hein, sans aucune difficulté, c'est ouvert à tout le monde. Mais justement, est-ce que les femmes gouvernent autrement, concrètement? Est-ce que ça a apporté quelque chose de nouveau dans la pratique de la politique?
Moi, mon avis très personnel, c'est que si aujourd'hui, on se rend compte qu'on est quand même dans une crise protéiforme et qu'on regarde qui gouverne depuis des millénaires, force est de constater qu'on pourrait peut-être essayer de mettre un petit peu plus de femmes dans les espaces de décision. Donc là, c'est juste un constat. Après, on peut l'analyser. Je pense qu'aujourd'hui, les diplomaties féministes, l'approche qui consiste à tenir compte des avis des uns et des autres, c'est plutôt du côté d'une politique portée par des femmes qu'on va avoir des solutions. Il y a deux choses qui me marquent énormément et que je vois au sein de Victoire Populaire. Donc nous, aujourd'hui, on rassemble environ 500 000 sympathisantes et sympathisants, et on a formé depuis qu'on s'est créé environ 10, c'est difficile de mesurer, mais entre 10 et 20 000 personnes qui savent faire de la mobilisation citoyenne, faire du porte-à-porte, avoir des discussions qui permettent de s'engager en politique. Ben, ce que je constate, c'est qu'on a énormément de femmes qui participent à nos actions. Mais vraiment, je pense que les ratios, on n'a jamais fait d'enquête à cet endroit-là, mais je le vois dans absolument tout ce que je constate. Dès qu'on organise des événements, il y a énormément de femmes qui participent. Dès qu'on dit on va avoir une discussion sur le contexte politique et sur la stratégie politique à adopter, mais les femmes disparaissent de l'espace. Ouais. C'est comme si d'un coup, il y avait eu un rideau devant tout le monde et on se retrouve à deux, trois femmes et à se dire, est-ce que je parle? Attends, peut-être que c'est pas le moment. Bon, je sais pas. Est-ce que je vais... Non, mais alors attends, il faudrait que... Mais je suis pas sûre de moi et nanana. Ça a un coût de prendre la parole quand on est une femme pour parler de politique qui est énorme par rapport aux hommes. Or, force est de constater que les hommes portent une certaine responsabilité dans le fait qu'on est bloqué dans une situation politique très compliquée aujourd'hui. Donc je pense que ça c'est intéressant de se poser la question de la place qu'occupent les femmes de la même manière que tout autre groupe minorisé par la société dans les espaces de décision. Et moi, une approche que j'aime beaucoup que vous portez avec démocratiser la politique, c'est de dire, en fait, le sujet, c'est pas... il faut absolument qu'il y ait plus de femmes en politique, parce que franchement, c'est pas facile. Enfin, moi, il y a plein de personnes qui me disent, bah oui, bah, c'est bien ce que tu fais, tu devrais aller plus loin. Oui, mais... Enfin, c'est quand même pas... C'est pas facile, hein. Quoi, d'y aller comme ça. Et si c'était plutôt les hommes qui, d'eux-mêmes, disaient, ouais. Bah, en fait, non, c'est à moi de reculer. En fait, là, dans la pièce, il y a combien d'hommes? 5. Combien de femmes? 1. Bon, bah, je vais sortir, et puis de toute façon, si la chaise, elle reste vide, il y a bien un moment, une femme qui va venir et qui va l'occuper. Et je pense que ce réflexe-là, c'est important que les personnes qui sont concernées et qui occupent beaucoup de place autour de la table, bah, elles puissent l'intégrer et se dire, bah, ok, là, c'est pas à moi, je vais sortir. Et moi, je suis une femme, mais je suis une femme qui a fait des études supérieures, qui aujourd'hui est considérée comme classe supérieure. Bah, si un jour, je me retrouve autour d'une table où il n'y a que des classes supérieures, bah, j'espère que j'aurai le réflexe de me dire, bah, je vais laisser ma chaise, et puis il va y avoir quelqu'un d'autre qui va rentrer, qui, j'espère, représentera une classe qui n'est pas la mienne, et qui fera en sorte qu'il y a plus de diversité autour de la table.
Mais juste, je voulais rebondir, c'est que moi, il n'y a pas longtemps, je fais un post Facebook, parce que j'étais exaspérée de voir la campagne des municipales et de voir les photos de les campagnes où il y a une nana, 5 mecs à la tribune. Et ça, c'est insupportable. Je veux dire, moi, j'ai envie de dire, en tout cas, à mes camarades écolos, de leur dire, maintenant, c'est pas possible. On peut pas faire ça en 2026. C'est autant d'hommes que de femmes. Ou alors, souvent, la femme, c'est celle qui anime. Donc on peut pas. Ce qu'on envoie comme message, c'est nous les mecs, eh ben,
ou qui prend note.
On est meilleurs.
Qui anime ou qui prend note.
Ou qui prend note. Voilà, oui, c'est ça. Pire. C'est exactement
ça. Donc, non, tout à fait, vous avez raison. Je crois qu'on va mettre On va prendre peut-être une pause musicale sur ces dernières déclarations. Et je tiens à préciser quand même, parce qu'à un moment donné, Florène a dit « Bon, si on prend ici, il y a cinq hommes, une femme. » Je précise que dans le studio,
c'est
nous sommes deux hommes, deux femmes. Voilà, je tenais quand même à apporter cette précision.
Des souvenirs familiers, il revient à ma mémoire. Des souvenirs familiers, je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans parole. Vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge partager mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages. Là-bas sous d'autres cieux, mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon
Vous êtes sur Fréquence Droit avec sur Radio Aligre, sur Aligre FM, avec nos invités. Donc, je commence par Florène Julien des Victoires Populaires, Annie Lamère de Démocratiser la Politique et Jean-Christophe Tagavi de Paris Collectif. Ma question, c'est pour toi, Jean-Christophe. Là, vous êtes à cette phase où comme tu l'as expliqué, vous arrivez avec un corpus de propositions que vous présentez donc aux différents candidats. Quel est ton sentiment ? Est-ce que ces propositions, non seulement vont être prises en compte, mais potentiellement mises en pratique, réalisées ? Et surtout, comment contrôler après ? Comment faire que, effectivement, si c'est le cas, ça puisse être effectivement contrôlé.
Alors, vaste question. Bon, tout d'abord, Paris Collectif salue les deux avancées majeures des dernières semaines. La première, c'est que lorsqu'on a restitué les 260 propositions citoyennes qu'on avait retravaillées avec l'ensemble des forces politiques de gauche, dans cet événement public, tous les partis politiques de gauche, et donc en l'occurrence actuellement les deux listes de gauche à Paris, se sont engagés publiquement à les reprendre, à les mettre en œuvre. Deuxième avancée majeure, c'est que une partie de ces partis politiques de gauche, et notamment ceux qui étaient copilotes de cette plateforme programmatique, depuis se sont rassemblés au sein d'une même liste, ce qui permet de réduire à deux le nombre de listes. Et donc du coup, aujourd'hui, Paris Collectif appelle à un élargissement de la dynamique de rassemblement, élargissement alors non seulement à tous les partis de gauche, sans exclusive, comme le rappelait Florène, si à l'issue du premier tour aux élections municipales à Paris, les deux listes de gauche sont à plus de 10%, la seule réponse possible sera la fusion. Aucun militant de gauche ne pourra accepter qu'il fasse l'hypothèse d'une quadrangulaire pour justifier de ne pas fusionner et lâcher la ville à la droite extrême, décomplexée, organisée, qui a un projet mortifère pour les plus vulnérables et qui détruirait notre capacité d'action collective à répondre aux crises écologiques, sociales, démocratiques qu'on traverse. Donc, premièrement, c'est élargissement du rassemblement à toutes les forces de gauche, parce que la première des urgences, c'est de gagner. Élargissement aussi aux organisations de la société civile et même à la société civile, qu'elle soit, même quand elle n'est pas organisée. Et pour ça, c'est à la fois sur la forme, avec des profils de listes qui soient renouvelés, diversifiés, qui ressemblent à la diversité de la société parisienne. Comme tu le disais tout à l'heure, Annie, il y a quelques photos de famille qui actuellement ne sont pas forcément tout à fait à l'image, en tout cas moi, d'un Paris que je connais. Et puis, élargissement à la société civile aussi sur le fond, avec de réels engagements, des engagements clairs, des garanties concrètes sur la nouvelle manière de gouverner la ville avec ses habitants. Parce que, à la fin, tous ces mouvements citoyens ont fait campagne pour battre la droite et l'extrême droite et faire gagner la gauche. Mais si, à chaque fois, la gauche gouverne de la même manière, verticale plutôt qu'horizontale, descendante plutôt qu'ascendante, à partir de messages préfabriqués par des experts et des communicants plutôt que de la parole des habitants, et bien au bout d'un moment, effectivement, on se posera la question de pourquoi, mouvement citoyen, nous continuons à œuvrer, à les faire élire. Alors j'ai bon espoir, étant donné les engagements qui sont pris par les uns les autres, que des choses changent. Mais effectivement, aujourd'hui, on continue au niveau de Paris Collectif à appeler à cet élargissement, tant sur la forme que sur le fond. Et il reste 2 mois pour que les partis politiques de gauche engagent.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Florène, comment changer d'échelle? Parce que effectivement, on voit bien il y a le travail de fourmi qui est mené tel que l'a décrit Jean-Christophe, et ensuite déjà le combat que ça représente au niveau parisien. Mais comment changer d'échelle, puisque vous, la particularité de votre mouvement Victoire Populaire, c'est d'être à l'échelle nationale et pas simplement parisien.
C'est une bonne question. Je vais dire un truc qui peut sembler bateau, mais je le pense vraiment. Je pense qu'il faut considérer l'urgence tout en s'ancrant sur le temps long. Je pense que ce qu'on essaye de faire, ça demande beaucoup de temps, de coopération entre des structures qui portent, des structures, des collectifs, des assos, des militants qui sont des pièces du puzzle différents. Et je pense qu'il n'y a aucune organisation de la société civile aujourd'hui qui peut dire « Ah bah moi, si j'étais un parti politique, demain je ferais mieux ». Et l'une des raisons pour lesquelles Victoire Populaire, aujourd'hui, on ne présente pas de candidates et de candidats, c'est que si on le faisait, on ne serait pas représentatif. Et donc il ne faut pas qu'on le fasse, parce que sinon on serait juste un parti de politique de plus. Donc je pense que ce qui est important, c'est de se dire « Ok, on a des échéances électorales qu'on ne peut pas perdre, qu'on ne veut pas perdre et qu'on ne va pas perdre, parce que j'ai décidé d'être optimiste aujourd'hui. En tout cas, on va tout faire pour. Mais une fois que ces échéances électorales elles sont terminées, n'oublions pas qu'il y a un combat à mener sur le temps long. Typiquement, on a des législatives qui arrivent. Moi, je serais curieuse de voir à quoi ça ressemblerait des législatives où on s'organise avec Victoire Populaire, Démocratiser la Politique, Paris Collectif, mais aussi des dizaines et des dizaines d'associations pour aller voir les partis et dire « Bon, vous voulez gagner ces 100 circonscriptions que vous avez perdues aux dernières élections. Nous, on a des profils qui embarquent, des citoyens prêts à faire campagne pour eux, des méthodes pour construire un programme et des idées qui vont faire en sorte que tout le monde va se sentir concerné. » Par contre, bah, il va falloir laisser de la place. Et je pense que ça, ce ne serait pas inintéressant de le tester sur le temps long. Je pense que malheureusement, la politique est une histoire de rapport de force, quand bien même j'aimerais qu'elle soit beaucoup plus féministe et dans la coopération, mais que c'est pratique, ça prend du temps pour les changer. Et donc, à mon avis, penser complémentarité entre nos collectifs, répondre à l'urgence tout en ayant en tête que tout ce qu'on fait doit s'ancrer dans le temps long, c'est certainement deux clés de réponse sur comment est-ce qu'on change d'échelle et comment est-ce que vraiment, vraiment, on fait bouger les lignes.
On s'achemine tranquillement vers la fin de cette émission et j'aurais tendance à te poser la question, Annie, de... c'est bien l'optimisme que manifeste Florène, mais est-ce qu'il y a... On y croit tous, hein, c'est pas du tout... Il n'y a pas de second degré dans ce que je dis, on est combatif, mais est-ce qu'il y a peut-être des exemples qui peuvent nous inspirer sur est-ce qu'il y a eu dans certaines communes, dans certaines collectivités locales, etc., des interventions citoyennes qui ont permis de prendre en compte, voilà, d'associer les citoyens aux décisions qui les concernent, tout simplement.
Ah ça, oui, il y en a eu, hein. Il y avait Saillant. Mais où il y avait vraiment une concertation sur tous les projets, etc. Donc, ce qui était intéressant, moi, ce qui m'avait marqué, c'était un projet pour les enfants d'école primaire où on voulait aménager un square avec des jeux et tout sur un lieu. Et les gamins étaient contre. Ils étaient contre parce que c'était une descente qui était génial, ils pouvaient courir d'en haut jusqu'en bas, ils n'avaient pas besoin d'avoir un toboggan ou autre, et donc ils ne l'ont pas fait. Et donc c'était, moi j'avais trouvé ça superbe d'aller voir les mômes en disant qu'est-ce que vous en pensez, et donc voilà, ça existe. Et il y a aussi un exemple là, et je pense que ça va changer les choses, on est allé présenter notre rapport à Poitiers, et donc la maire de Poitiers qui présente une liste a vraiment pris en considération ce que leur demandait démocratiser la politique, c'est de faire qu'il y ait moins de CSP+, en tête de liste, etc. Et donc là, elle change les choses. Elle change les choses et elle inverse. Hein, elle inverse pas parce que c'est compliqué du jour au lendemain et très très vite, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de personnes issues des quartiers pop, des milieux populaires, qui vont être élues et qui auront des postes d'adjoints. Et ça, c'est intéressant. Et c'est la preuve que si on l'explique, et ça ne m'étonne pas de Poitiers en même temps. Ça ne m'étonne pas puisque sa façon d'être arrivée en 2020, ça a été justement pas de candidature. C'est elle qui avait... Le collectif avait décidé que c'était elle la meilleure pour représenter leur programme. C'est aussi ça, c'est travailler dans ce sens-là, avoir un programme et ensuite on voit ensemble qui représente, qui est la meilleure des personnes pour représenter notre liste. Parce que la plupart du temps, non, c'est moi, je vais être tête de liste, hein, puis vous venez derrière et beaucoup de choses sont déjà bloquées. Donc, j'ai pas vraiment d'autres exemples, mais moi, Saillant, ça... Alors, il y avait quand même un problème à Saillant. Moi, je me souviens d'être allée dans un bar, dans un troquet à côté de la gare, où je discutais. Alors, voilà, c'était des gens vraiment issus de l'immigration et tout. Ils disent, nous, ils sont pas encore venus nous voir. Donc, il y a quand même... Voilà.
Il y a encore du chemin à faire.
Il y a encore du chemin à faire. Donc, je pense qu'il y a encore du chemin. Nous, ce qu'on demande aussi, c'est que les listes qui vont se monter, qui sont en train de se monter, qu'on puisse voir rendre visible l'origine sociale des personnes. Ça me paraît important. Il n'y a pas longtemps, je suis allée soutenir une liste à Carrière sous Poissy. J'ai trouvé ça génial, c'est que sont intervenues, et ce seront des personnes qui seront en tête de liste, notamment une AESH. Donc une personne qui travaille dans les écoles, qui sait ce que c'est que la précarité de son emploi. Et donc ils ont fait attention à ça. Mais ils ne l'ont pas fait volontairement, ils l'ont fait parce qu'en fait, voilà, ils travaillent ensemble depuis longtemps et que c'est ensemble qu'ils se mobilisent sur des actions.
Merci beaucoup. C'était la première émission d'une série de trois émissions consacrées au municipal de 2026. Et où nous, ou Fréquence Droit, donc la LDH, donnera la parole aux mouvements citoyens. Et ils sont nombreux, ils sont actifs et ils sont conquérants. Donc, et nous les soutenons pleinement, nous nous y associons évidemment totalement. Merci à Florène Julien, des Victoires Populaires. Merci à Annie Lamère de Démocratiser la Politique. Merci à Jean-Christophe Tagavi de Paris Collectif.
Merci à toi.
Merci à vous. Le prochain rendez-vous sera le 23 février avec d'autres associations et d'autres mouvements citoyens, à savoir Le Moment, Altermédia. Et bien évidemment, merci à toute l'équipe technique, Marc Savino, Laurence Sabiri, Bruno Guironnet et évidemment Claude Cyril, auquel on pense très fort tous. Sans oublier Philippe Donnefort à la régie pour Aligre FM. Merci à vous tous et à bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.